France Inter. .fr.
Bonjour, c'est le pianiste français, producteur sur France Musique, Philippe Cassard, qui est l'invité de Vous avez dit classique aujourd'hui. Spécialiste de Schubert et de la musique française, notamment Debussy, il a créé et joué depuis 1993 le cycle intégral de l'œuvre pour piano de Debussy qu'il a tourné partout dans le monde, de Paris à Tokyo en passant par Liège, Singapour, Dublin, Lisbonne. L'année dernière, il a sorti un deuxième disque en duo avec Nathalie Dessay, de mélodies françaises, de Fauré, Poulenc, Duparc et Chausson. Passionné de chant également, il a beaucoup enregistré de musique de chambre avec Nathalie Dessay, bien sûr, mais aussi Karine Deshaies, Christa Ludwig. Il a aussi interprété avec la violoncelliste Anne Gastinel, le violoniste David Grimal ou encore le clarinettiste Michel Portal. Philippe Cassard est donc un formidable interprète, également grand pédagogue, producteur de Portraits de famille le samedi à 9h sur France Musique. Il est avec nous pendant une heure pour partager son parcours d'interprète et ses affinités musicales. Bonjour Philippe Cassard.
Bonjour Elsa Boubine.
Une grande joie de vous avoir avec nous aujourd'hui parce qu'on vous diffuse beaucoup ici.
Il paraît que je suis très gâté, en effet.
On vous adore.
Ma maman m'appelle pour me dire, parce qu'elle est fan de votre émission, elle me dit, ah mais tiens, ils ont passé une œuvre de Debussy, du Schubert ou Nathalie, de Dessay, etc.
Elle s'attire aussi souvent.
Merci Elsa.
La musique, c'est depuis toujours apparemment pour vous. En tout cas, vous avez commencé le piano très jeune.
Oui, assez jeune, 5 ans et demi, je dirais.
Oui, c'est quand même très jeune.
Ah oui, oui, oui. Mais c'est le bon âge en même temps.
Oui.
Parce que c'est le moment où l'enfant est confronté à deux types de langage. S'il apprend la musique, il apprend à écrire, à lire. Et donc, comme les enfants sont des éponges, ça va beaucoup plus vite que quand, en fait, le langage parlé, écrit et lu est assimilé. Il vaut mieux faire les deux choses de front.
Voilà, comme ça, ça permet de développer plusieurs langages à la fois. Et donc, vous, c'est ce que vous avez fait. On va voir à quel point votre langage musical est lié à votre parole, et réciproquement. En tout cas, on va pouvoir découvrir votre parcours musical qui commence de manière assez insolite. J'aime bien cette histoire, et je ne sais pas si elle est vraie. En tout cas, vous auriez découvert le piano par celui de vos voisins.
Ah oui, 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 oui. Ben, c'est tout simple, c'est que mes parents n'avaient pas la télévision et quand j'étais petit, on habitait dans un immeuble et les voisins avaient un petit garçon qui était peut-être de 2-3 ans plus âgé que moi. Eux regardaient la télévision, alors j'allais voir le nounours, là, le marchand de sable, Pimprenelle et Nicolas tous les soirs. Bonne nuit les petits, c'est comme ça que ça s'appelait. Bon, 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 l'éléphant, là. Enfin, pas l'éléphant d'ailleurs, non, si, le nounours, nounours, nounours. Et puis, le petit garçon qui s'appelait prénommé Pascal, il jouait du piano. Et ben moi, je tapotais sur le piano, enfin comme ça, hein, vraiment des clusters, pas vraiment des accords définis. Mais ça me plaisait bien. Et comme je chantais, que j'aimais chanter, que l'institutrice de maternelle avait dit à mes parents, mais il chante juste, vous devriez lui faire faire du... soit le faire participer à une chorale ou lui faire commencer un instrument. Ben, mes parents ont demandé à leur voisin qui était le professeur de leur gamin. Et puis voilà, tout naturellement, je suis allé chez cette dame qui m'a débuté, comme on dit.
Alors on va découvrir ce parcours incroyable avec, au fil de cette programmation, des morceaux de Brahms, Schubert, Chopin, Debussy. Nous parlerons donc de vos compositeurs et maîtres interprètes, comme celui avec lequel nous allons commencer, Léon Fleischer. Vous avez fait des masterclass avec lui, alors on va l'entendre dans ce concerto numéro 1 en ré mineur, je crois, qui était l'œuvre fétiche de ce pianiste étonnant.
Ça, c'était... Oui, alors vraiment, lui il l'a joué à 15 ans, moi je l'ai appris à 19.
Et en tout cas, je crois que c'est ce concerto qui a ouvert les portes du monde de la musique à Léon Fleischer. Enfin, c'est comme
absolument,
ça qu'il s'est fait découvrir.
Absolument.
On va l'écouter donc dans le troisième mouvement de ce concerto, le Rondo, concerto numéro 1 en ré mineur de Johannes Brahms.
Thank you.
Yves Land.
C'était la voix de Philippe Cassard qui voulait désannoncer à ma place, bien sûr, Georges Sell, effectivement, qui dirige l'orchestre de Cleveland avec Leon Fleischer au piano dans ce rondo du concerto pour piano numéro 1 en ré mineur de Brahms. C'est vrai que vous étiez emballé par ce choix parce que c'est un maître pour
mais
vous.
Mais c'est le feu, c'est on le entend feu. L'énergie, la jeunesse. Il a 30 ans, Fleischer, quand il enregistre ça. Et il y a un feu de Dieu. Celle derrière, il fouette ses musiciens. Enfin, c'est cravaché, l'orchestre est incroyable. Enfin, ils mettent le feu à cette musique et surtout, ils rendent à Brahms sa jeunesse. Brahms, il avait à peine plus de 20 ans quand il a écrit cette musique. Et alors, c'est pas fait pour être joué comme si c'était par un papy de 90 ans. Souvent, on joue ça, c'est marmoréen, c'est ennuyeux, c'est didactique, c'est académique, c'est métrique, vertical. Et eux, voilà, c'est la jeunesse, c'est rhapsodique, on sent vraiment. Et puis, une joie dans le jeu de Fleischer, enfin c'est merveilleux, j'adore ça.
Alors Philippe Cassard, j'aime beaucoup cette chose que j'ai lue. Vous disiez que vous, quand vous avez pris cours avec Leon Fleischer, vous aviez l'impression d'avoir votre première permission de minuit. Est-ce que c'est ça, c'est cet emportement que vous vouliez signaler?
Ah, c'est-à-dire à l'époque en 81, ces masterclass, moi j'étais tout jeune, j'avais 19 ans, et c'était permission de minuit parce que tout à coup c'était le grand maître international. On avait tous un peu peur, les stagiaires. Un peu intimidé, c'est ce monsieur qui n'était pas venu en France depuis des années et des années, donc auréolé de légende. Et surtout, ce qu'il faut préciser aux auditeurs de France Inter, c'est qu'il avait perdu l'usage de sa main droite.
Oui.
Depuis 20 ans, il ne jouait qu'avec sa main gauche. Et donc, tous les thèmes de ce concerto, celui que nous venons d'entendre, qui est joué à la main droite, il me le jouait, puisque je travaillais ce concerto avec lui. Moi, je voulais travailler ce concerto uniquement pour lui jouer, parce que pour moi, c'était la version la plus géniale. D'ailleurs, ça l'est toujours. Et il le jouait avec la main gauche et il phrasait avec la main gauche et la main droite était repliée sur elle-même.
Il avait une dystonie de fonction,
ce qu'on appelle une dystonie de fonction, une espèce de paralysie un peu mentale, c'est très psychosomatique cette histoire.
Pour un pianiste en plus.
Et à l'époque ça se soignait pas vraiment.
Il avait des séances de Botox, je crois.
Mais il est passé partout, l'acupuncture, l'hypnose, enfin, etc. Maintenant, on sait soigner ça, on sait. À l'époque, on soignait ça de briques et de brocs. Enfin. Et c'était surtout toute une tradition. Son maître, Arthur Schnabel, avait été l'élève d'un grand maître viennois, Leczetiski, qui lui-même avait été l'élève de Czerny, qui lui-même avait été l'élève de Beethoven. Vous imaginez la lignée? Vous voyez cette lignée incroyable?
Et puis vous inscrivant là-dedans, forcément, ça doit...
Non, mais quand même. On recevait en tout cas la transmission.
On a l'impression de remonter à la grande musique presque directement.
Oui. Mais c'est surtout, c'est vivant. Il n'y avait rien de tradition. C'est comme ça qu'il faut faire. Non. On sentait la musique vivre dans les veines de ce grand monsieur.
Alors, un autre personnage qui vous a fait, je crois, très sauter sur votre chaise quand vous êtes allé le voir, c'est Sanson François.
Quel souvenir d'enfant, alors, du coup.
Parce là, vous étiez jeune.
Sanson François est mort quand j'avais 8 ans, mais comme il venait au festival de Besançon, ma ville natale, il venait presque tous les ans, il était fêté comme un héros. Je dois dire que mes parents, pour le premier concert de ma vie, je devais avoir 6 ans, je crois que c'était en 68 ou 69, ils m'ont emmené deux fois écouter Sanson François. Et ça, alors évidemment, quand on est enfant, c'est un peu comme ça dans la mémoire, maintenant un peu diffus, mais je me souviens du charisme, de la ferveur du public, et puis de ce Chopin, c'est rentré en moi grâce à Sanson François.
Et puis il a une façon de l'aborder qui n'est pas du tout romantique. Hein, il l'aborde de manière très romanesque, non même pas romanesque, franc romanesque
mais
peut-être.
Mais oui, aussi il raconte, c'est narratif et c'est chanté.
Et tout paraît évident sous ses doigts. Vous
absolument.
On écoute la valse opus 42 de Chopin, interprétée par Sanson François. Thank you. Sont des doigts qui s'enfoncent dans le clavier.
Ah oui, mais il y a un charme. Et puis, il ne va pas à toute vitesse. On entend cette valse, on a l'impression d'un piano mécanique. Et lui, non, pas du tout. Il déroule une mélancolie. On est pris dans la liane, dans le. De cette.
Comme si on suivait le fil d'une pelote.
Oh, que j'adore ça. C'est le seul à jouer ça comme ça. Et puis, la main gauche qui est d'une grâce légère. Enfin, c'est merveilleux de jouer Chopin comme ça.
Samson François, donc, qui interprétait cette grande valse en la bémol majeur, numéro 5, opus 42 de Chopin.
Vous avez dit classique ? Elsa Boublil, sur France Inter.
Philippe Cassard, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers souvenirs de piano, de cours de piano, d'impressions ?
Ah oui ! Très, très, très bien. Comme si c'était hier.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pique une crise et je me roule par terre devant ma mère et devant le prof. Absolument. Ça devait être au quatrième cours de piano. Évidemment, pour jouer du piano, il faut quand même savoir lire un peu les notes. Donc, j'avais un professeur, une vieille dame un peu rigide comme ça, mais pas méchante. Et vraiment, elle me communiquait le plaisir de la musique. Enfin, après, mais au début, il faut lire les notes. Donc, j'étais devant un piano droit avec des portées et puis les notes. Et puis, elle, avec son crayon, il fallait que je suive son crayon devant telle et telle note et dire la, sol, do, fa, ré, mi, etc. Clé de sol, clé de fa. Au bout de 4 leçons, j'en avais par-dessus la tête, j'avais 5 ans et demi. J'ai piqué un hurlement.
Il fallait jouer ?
Mais moi, je voulais jouer, ouais. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui dis, mais moi, je veux jouer, je veux jouer. Elle me dit, ah, mais non, mais tant que tu ne sais pas tes notes, ce n'est pas la peine.
Et vous avez tenu bon?
C'est-à-dire que oui, il a fallu quand même. Enfin, elle s'est rendue compte qu'il fallait vraiment un rapport au clavier que je maintiens toujours. Enfin, c'est vraiment le rapport tactile, sensuel au clavier qui est important pour moi aussi. Et donc, oui, on est passé assez vite à la matière vivante des choses, c'est-à-dire pas seulement le langage solfège, mais le piano dans ce qu'il a d'organique, de vivant, de relié au corps.
Alors on va vous écouter Philippe Cassard avec Cédric Péchia dans la fantaisie en fa mineur de Schubert pour vous entendre dans ce rapport tactile au piano où là effectivement ça s'exprime de manière très claire. C'est vous qui commencez, c'est vous qui ouvrez la danse.
Oui.
Eh bien on vous écoute, Cédric Péchia arrive juste derrière. La fantaisie en fa mineur opus 103 de Franz Schubert, interprétée par vous, Philippe Cassard, et Cédric Péchia au piano. En fait, vous êtes à quatre mains. Et c'est une œuvre où on entend, si on peut dire les choses comme ça, votre façon de prendre le piano, cette délicatesse, cette matière que vous savez faire sonner, parce que c'est une question de savoir faire sonner le piano.
Surtout que ce début de fantaisie, c'est vraiment délicat, hein, parce que la partie du bas qui commence, l'accompagnement, c'est Cédric qui le fait, il est en bas, et moi j'arrive et...
Avec le chant.
Voilà, avec le chant, ce taram, taram. Et c'est tellement délicat, ça n'a l'air de rien, ces quatre petites notes d'accompagnement, mais je peux vous dire, c'est noté pianissimo, donc très très doux, et ça doit venir de nulle part. Ça
commence... Comme un souffle un peu.
Oui, dans le silence, ça émerge du silence, et tout à coup, la mélodie, cette mélopée si mélancolique, et en même temps, il y a un charme, il y a le rebond, c'est très viennois aussi. Vous savez, cette fantaisie, c'est le proverbe viennois par excellence, la situation est désespérée, mais pas grave. C'est tout à fait ça, la fantaisie de Schubert. On va vers le désespoir, mais quand même le cœur en fête, et puis on sait s'attendrir, on sait rêver, s'enivrer, et puis voilà, on va jusqu'au chaos final.
Alors Philippe Cassard, ça me permet d'aller directement avec vous à ce choix qui a été le vôtre à un moment d'aller étudier le piano à Vienne. Pourquoi ce choix-là? Parce que il y a plein d'autres destinations.
Oui, ça s'est fait aussi là par un stage d'été que j'avais fait à Vienne. Et puis cette ville m'a fasciné, je connaissais pas, j'avais 18 ans. J'avais passé 6 ans au conservatoire chez un très très grand professeur, Dominique Merlet, qui m'a magnifiquement formé, ça je dois le dire. Et justement, il m'a si bien formé que je me sentais prêt à affronter une situation plus solitaire,
nouvelle.
Et ça a été 2 ans et demi à Vienne, mais essentiel dans ma vie de musicien, essentiel.
C'est comme ça que vous avez mieux connu Schubert ?
Ah oui, le bain, je suis tombé dedans, dans la marmite, et je ne l'ai plus jamais quitté. Je veux barboter jusqu'à la fin de mes jours dans la marmite de Schubert.
Alors là-bas, vous avez découvert La jeune fille et la mort, interprétée par le quatuor à Bamberg.
Quel choc ! C'était en octobre 82, j'en suis toujours pas revenu, une intensité du début jusqu'à la fin. Enfin, je suis sorti, je n'arrivais plus à marcher.
Alors on va l'écouter dans son mouvement lent, l'andante, con moto, de la jeune fille et la mort, interprété par le quatuor Alban Berg. En plus, alors ça nous permettra de parler de votre rapport au texte, mais c'est vrai que Schubert, au départ, a écrit La jeune fille et la mort.
Un lead.
C'était un lead sur un poème de Claudius, qui retranscrit en musique des mots retranscrits en notes. C'est possible donc?
Ah, tout à fait.
Thank you.
Un extrait de ce quatuor à cordes numéro 14 en ré mineur de Franz Schubert, La jeune fille et la mort dans son deuxième mouvement, par le quatuor Alban Berg. Et c'était très beau de vous entendre en parler, Philippe Cassard, à l'instant, parce que vous disiez que finalement, à chaque fois que vous les avez entendus jouer, ils avaient la même vivacité. J'ai envie de dire un peu comme cette œuvre qui parle de la mort et à la fois qui est d'une vitalité éblouissante.
Les paroles, c'est très simple. C'est la mort dite à la jeune fille. Alors d'abord, la jeune fille a peur. Oui. Elle fuit la mort. Mais non, lui dit la mort. Viens dans mon royaume et tout va s'apaiser. Ça, c'est complètement romantique. C'est le masochisme, la rédemption, le bonheur dans la mort, contre les maux terrestres. Et ce que je trouve absolument sublime avec le quatuor Alban Berg, c'est que d'abord, c'est flottant. C'est pas pesant, c'est pas germanique. Ouais. Il y a toujours cette grâce viennoise quand même. Et puis.
Comme si c'était en suspens,
oui,
c'est ça.
Oui, en suspens, ce phrasé mobile qui avance. On ne s'apesantit pas. C'est vraiment du Schubert et pas du Brahms ou du Bruckner ou du Wagner. C'est vraiment Schubert, l'esprit, le tempo aussi, des tempos justes et fluides. Fluide, ça avance toujours. Et puis la couleur, la manière dont ils chantent, enfin, c'est bouleversant. Et moi, quand je les ai reçus dans un festival dont je m'occupais à Aix-les-Bains dans les années 2000, ils ont joué La jeune fille et la mort, et je leur ai envoyé un petit mot juste avant le concert en leur disant, voilà, quand j'avais 19 ans, je vous ai écouté à Vienne dans la salle Mozart, vous avez joué cette jeune fille et la mort, et quel honneur vous me faites de la jouer là ce soir. Et ils l'ont rejoué, je vous assure, avec la même intensité, le même feu, la même poésie, la même grâce que 25 ans auparavant. C'était bouleversant.
Alors ça nous permet d'aborder en quelques mots, Philippe Cassard, justement ce lien qui est le vôtre, très particulier entre la musique, les notes, les mots. Finalement, on dirait que le fil conducteur est directement tissé, puisque vous parlez à la radio sur France Musique, que vous jouez toujours autant au piano, vous faites beaucoup de récitals dans une année, et que vous aimez aussi jouer avec des chanteurs.
D'abord, ça vient certainement de mon éducation, le bonheur des mots à dire, à lire, à écrire. J'essaie de concilier les trois. Bon, écrire un petit peu moins, enfin en tout cas écrire manuellement avec un stylo, maintenant c'est presque devenu obsolète ou caduque, mais j'essaie de pratiquer quand même. En tout cas, le rapport au langage, oui, mes parents étaient enseignants, mon père enseignait l'allemand, ma mère la phonétique, la linguistique française, et donc on lisait à la maison, ou on nous conseillait de lire, on allait au cinéma, on lisait le journal, Le Monde, je me souviens, mon père m'avait abonné au Monde quand j'ai commencé mes études au Conservatoire de Paris, pour qu'il y ait toujours un rapport au langage, à lire, les mots, apprendre du vocabulaire, etc. Et donc, évidemment, ça s'est fait très naturellement. Quand je suis allé à Vienne, j'ai fait la classe d'accompagnement de Lieder, et tout d'un coup, le rapport à la poésie, et avec la musique, ça coulait de source.
Donc c'est pas un hasard si Christa Ludwig est devenue votre marraine musicale, cette femme au tempérament dramatique, à l'articulation souveraine, à la musicalité, qui lui ont permis de devenir la chanteuse d'opéra et diseuse de Lieder incomparable.
Incomparable.
Et votre marraine, quand même.
À Paris, 85, elle a présidé à mes débuts parisiens, j'ai eu l'honneur de l'accompagner.
La voici dans un Lied de Brahms, Der Tod, das ist die kühle Nacht.
Thank you.
Der Tod, das ist die Kühle Nacht, chère mort qui est une nuit tranquille, de Johannes Brahms, interprété par Christa Ludwig, et c'est Geoffrey Parsons au piano, et donc Christa Ludwig qui a été votre marraine musicale, Philippe Cassard.
J'ai entendu plusieurs fois à Vienne en fait, et c'est elle était accompagnée par mon maître, par mon professeur d'accompagnement, Eric Verba, et c'est un peu, je tournais les pages, moi, Eric Verba pendant les concerts avec Christa Ludwig, donc j'ai pu l'approcher, Christa Ludwig, à ce moment-là, et quand je suis revenu en France, on m'a offert un concert dans une série au Théâtre du Châtelet qui a disparu, qui s'appelait Les Grands Interprètes et les Jeunes Talents. Et donc il fallait que les jeunes talents cherchent un parrain ou une marraine. Donc j'ai téléphoné avec un culot incroyable à Christa Ludwig en lui disant « C'est moi le petit français qui tournait les pages à Verba, à Vienne. Est-ce que vous accepteriez de... » Elle a dit oui. Elle a dit « Ah ben si vous étiez élève de Verba, aucun problème, oui bien sûr. »
C'est comme ça qu'elle est devenue votre marraine.
Absolument. Et on a travaillé, on a répété. Et le concert a été une leçon pour moi, pour la vie. Cette dame est arrivée, le concert était à 18h30, elle est arrivée à 18h25. Elle a passé sa robe de concert derrière un rideau. Et puis elle a dit « Eh ben on y va maintenant !» Et moi, qui était perclus de trac, qui avait les mains gelées, elle a pris mes mains, elle m'a dit « Mais vous avez les mains gelées ?» Elle les a prises. Elle les a plaqués contre ses seins. Tout d'un coup, j'ai plus eu le trac. J'ai trouvé ça, ce geste d'une générosité, d'une gentillesse. C'était vraiment, oui, la marraine dans toute sa splendeur.
Et donc, l'enseignement, c'est surtout qu'il fallait vivre.
Vivre, et c'était ce qu'elle était sur scène, et c'est ce qu'elle m'a montré pendant l'heure et demie de concert, oui.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Philippe Cassard, une marraine qui chante avec ses doigts. Est-ce qu'on peut faire imaginer des mots? C'est possible ça?
C'est-à-dire
qu'on puisse entendre, en écoutant des musiques et des mélodies, imaginer des mots sur ces mélodies.
Moi-même, très souvent, ça fait partie de mon imaginaire. Et quand je faisais mes émissions à France Musique là-dessus, les notes du traducteur, là, qui ont duré 10 ans, je faisais ça tout le temps, de donner des images ou d'imaginer un paysage ou des mots d'amour, des mots de colère. Vous savez, Mozart, c'est très simple. Il suffit d'écouter des concertos de Mozart. Les concertos de Mozart, ce sont des petits opéras. Et donc, dans des opéras, il y a des personnages, des situations, des caractères, des éclairages, des allées et des venues, le grand air de la soprano, le duo des deux amoureux. Et avec des mots, je t'aime, je te déteste, où es-tu caché, etc., etc. Et les concertos de Mozart ne font qu'être le laboratoire de ce qui va être les Noces de Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni. Et donc, voilà. Et ensuite, Schubert, la musique. Toute la musique que Schubert n'a pas écrite avec une poésie dans la ligne du dessus, eh bien, ce sont des leaders muets, des leaders au neuvorte, romance sans parole, pour dire, parce que on peut absolument parler là aussi d'amour, de la nature, du ciel et de la terre, dans n'importe quelle musique
alors,
de piano de Schubert.
On dirait que vous faites exactement ça avec le Clair de lune de Debussy. On dirait que vous nous contez une histoire. On l'a beaucoup diffusée ici. On va encore l'écouter un petit peu. Je propose qu'on l'écoute.
C'est la Madeleine de Proust.
Et je crois exactement de Debussy interprété par vous. Et je propose qu'après vous nous racontiez en quoi cette œuvre est apparemment un jalon aussi dans votre vie et dans votre carrière. Thank you. Un extrait de Clair de Lune, suite bergamasque de Claude Debussy, interprété par vous, Philippe Cassard, au piano. Donc un Clair de Lune qui a été fondamental dans votre vie.
Ah oui, mais le hasard. Et il se trouve que quand je présentais Notes du traducteur à France Musique, à partir de septembre 2005, ma deuxième émission a été consacrée au Clair de Lune. Alors l'émission, ça consistait à essayer d'expliquer l'œuvre.
D'éclairer une œuvre,
oui, en l'occurrence, mais sans jargon. Avec le piano, en public, et donner des images, parler d'un imaginaire. Là, vous voyez, pour moi, ce début de Clair de Lune, c'est la lune qui descend à travers, qui s'incruste dans les arbres, qui descend jusqu'à la terre, et puis pouf, elle embrase ensuite la forêt de son rayon. Et il se trouve qu'une dame qui vient d'avoir 87 ans, Madame Perrault, Francine Perrault, a écouté cette émission. Elle était très, très malade à cette époque-là, elle était à l'hôpital. Elle m'a écrit une très jolie lettre, très longue, pour me dire que cette œuvre lui rappelait ses années d'enfance, de prime enfance, puisque son grand-père, Gabriel Saint-René Taillandier, était un ami des Debussy. Mmh. Et nous avons lié amitié avec cette dame, avec Madame Perrault. Elle est venue assister à une quantité d'enregistrements, pratiquement tous les enregistrements que j'ai fait pendant 10 ans de cette émission. Et au bout de quelques années, elle m'a invité chez elle. Et après avoir passé 3 heures avec elle, elle m'a offert toute une série de manuscrits, de mélodies de Debussy, que Debussy avait composées quand il avait 20 ans, 22 ans. Ces mélodies, certaines d'entre elles étaient totalement inédites, une était même inconnue par les musicologues. J'ai consulté un très grand spécialiste de Debussy, Denis Herlin, qui les a éditées pour Universal. Et c'est à la suite de ça, quand j'ai vu que ces mélodies inédites étaient destinées à une soprano léger, que j'ai écrit à Nathalie Dessay et que j'ai proposé à Nathalie de les créer. Nathalie, au départ, elle était encore chanteuse d'opéra à l'époque, donc je vous parle de 2009-2010, elle m'a dit non. Et puis, comme il suffit qu'on me claque la porte au nez pour que je repasse par la fenêtre, je me suis un peu accroché. Et j'ai eu raison, parce que Nathalie, finalement, s'est laissée convaincre. Et de cela est née non seulement cette amitié extraordinaire avec elle, mais cette amitié professionnelle. Donc le disque de Debussy, elle a créé ses mélodies, Salle Pleyel, en février 2012. Et puis depuis, nous ne cessons de travailler, de jouer ensemble, de faire des tournées, d'enregistrer. On va enregistrer du Schubert à la fin de l'année.
Claire de Lune, donc, vous a bien éclairé.
Eh bien voilà, on va dire ça. Je suis reconnaissant à la Lune. Et en plus, la Lune, c'est un thème schubertien, puisqu'il y a tellement et tellement de poésie, Le Voyageur à la Lune, etc., composée ensuite. Schubert a écrit des quantités de leaders sur le thème de la Lune.
Alors, on va finir avec un personnage qui a compté pour vous aussi, Philippe Cassard. Vous me donnez l'impression d'être un peu comme Léon Fleischer, qui était l'un de vos maîtres, qui disait être comme un chat, avoir vécu 7 vies. Vous n'en êtes pas loin, en tout cas, vous faites beaucoup de choses. Et parmi vos rencontres vraiment importante, c'est le chef d'orchestre Armin Jordan, avec qui, vous avez été son dernier pianiste.
Oui, ça fait juste 10 ans qu'il est mort, à quelques semaines près, et j'ai été le dernier pianiste qu'il a dirigé. C'était en mai, vraiment presque jour pour jour, en mai 2006 à Liège, et c'était de la musique française, la balade pour piano et orchestre de Fauré, et le petit concertino de Jean Français, et ça a été un moment pour moi, de grâce, de rencontrer cet immense chef d'orchestre qui était un poète, qui était très malade, il fumait énormément, donc il avait un mal fou à respirer. Enfin, respirer était une torture pour lui. Et je dois dire que la manière dont il a dirigé l'orchestre était totalement fanatisé, hypnotisé par lui. La joie qu'il avait de diriger, il adorait Fauré. Et moi, j'ai joué la balade, mais c'était juste, j'étais sur un petit coussin d'air, un nuage. Je n'avais Dieu que pour lui, sa baguette souple. Et qui sollicitait, qui suggérait les phrasés avec délicatesse. C'était un charme et c'est un souvenir inoubliable.
Si je vous le propose dans La nuit transfigurée de Schoenberg, ça vous va?
C'est nous qui allons être transfigurés.
Oui, je crois, parce qu'on est encore, pour rejoindre la thématique du jour, on est encore entre les mots et la musique, le poème symphonique et puis le drame, la musique de chambre, le drame. Le voici, c'est Armin Jordan qui dirige La nuit transfigurée de Schoenberg. Verklärte Nacht, la nuit transfigurée de Arnold Schönberg, le moment Schwerbetont pour donc ce sextuor à cordes et interprété donc par l'ensemble de chambre de Paris sous la direction d'Armin Jordan. C'était pour parler de cette cinquième vie, Philippe Cassard. Il vous en reste deux, non? Plus que ça, j'espère.
Non, je sais pas, vous savez, j'y pense jamais. Moi, je suis évidemment très boulimique, très gourmand, je fais beaucoup, beaucoup de choses. Mais je suis un paresseux, je le dis toujours, je suis un paresseux qui se crée des multiples occasions de travailler et d'épuiser les choses. Ça, voilà.
Pour masquer cette paresse, non, c'est pas possible.
Non.
France Inter. Vous avez dit classique. Elsa Boublil.
Alors Philippe Cassard, pour terminer, deux prescriptions en une, parce que vous le savez, on finit toujours cette émission par une prescription pour donner aux auditeurs à la fois envie de sortir, de se procurer des disques. Alors voilà, à l'occasion de l'exposition qui a lieu en ce moment au musée Monet-Marmottan sur l'art et l'enfant dans les chefs-d'œuvre de la peinture française, je vous propose une petite synesthésie avec le compositeur Debussy, que vous aimez tant, qui résonnera très bien avec les œuvres de Renoir, Morisot, Monet, qui ont été sélectionnés pour représenter l'évolution du statut de l'enfant du 15e siècle au 20e siècle. C'est une exposition absolument sublime. On comprend bien comment est perçu l'enfant au fil des siècles. Il n'est pas représenté de la même manière selon les époques, bien sûr, avec le 20e qui le célèbre, hein, notamment Picasso, qui a même essayé de se rapprocher du dessin d'enfant pour retrouver cette innocence. Alors vous aussi, vous avez rendu hommage à Debussy de manière magnifique. Il y a un coffret qui est sorti
il y a un mois.
C'est un coffret qui est en coproduction d'ailleurs avec France Musique, dans lequel vous nous présentez Claude Debussy, un peu comme vous le faisiez quand vous le faites à la radio.
Ce sont des émissions du traducteur. Voilà, c'est exactement ça. Les émissions. Elles sont reformatées pour le CD. Il y en a beaucoup. Il y a, je sais pas, une dizaine d'émissions qui sont raccourcies, etc. Mais où on entend à peu près 35 ans de création musicale.
Alors, on va écouter les Children's Corner, puisque comme on parle des enfants, on va écouter ces œuvres que Claude Debussy avait dédiées à sa fille Claude Emma, qu'il avait surnommée Chouchou. Chouchou.
Il en était complètement gâteux.
Et il lui a écrit avec les tendres excuses de son père pour ce qui va suivre. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça?
J'aimerais bien des excuses. Vous savez, quand on écrit à ce niveau, à ce génie, de la couleur, et puis il était au niveau de son enfant, il était par terre à jouer avec elle.
Alors, on va imaginer les flocons de neige dansant et arrivant sur le sol en ce mois de mai encore un peu frisqué.
Thank you.
The Snow is Dancing, extrait des Children's Corner de Claude Debussy. Et c'est fou, Philippe Cassard, à quel point, avec votre jeu pianistique, on a l'impression de voir les flocons tomber. On est derrière une fenêtre, heureusement au chaud, et on voit le vent pousser les flocons.
C'est ça, comme ça vient, au gré du vent. Et puis alors les échos des cloches, une petite comptine d'enfants, le bonhomme de neige peut-être qui apparaît derrière ce rideau de flocons, cette atmosphère. Ça, Debussy a le sens de la spatialisation, excusez-moi, c'est un peu pédant, mais quand même, la distance, le lointain, le proche, l'intime et l'extérieur, enfin, c'est bouleversant, cette pièce.
Faire tout ça entendre au piano, vous le faites parfaitement. On peut vous découvrir dans ces notes du traducteur Philippe Cassard, dédié à Claude Debussy. C'est un disque sorti chez Harmonia Mundi, en coproduction avec France Musique. Un grand merci à vous d'être venu.
C'est moi qui vous remercie, Elsa. Merci beaucoup de votre accueil.
Et puis, courez voir l'exposition au musée Monet-Marmottan, l'enfant et l'art, c'est une très belle exposition jusqu'au 3 juillet prochain. Merci beaucoup à Marie-Annick Rimbaud qui a réalisé cette émission. Merci à Camille Poux, Jalaguier, Claire Destacan, Elsa Rampazzo et Alexandra Ramos da Silva. À la technique aujourd'hui, c'était Antoine Gomez. Demain, allez, branchez-vous bien sur France Inter, mais à 16h en particulier, puisque nous recevons Grégory Porter. Ça va vous plaire, ça, non, Philippe Cassard?
Oh, je serai à l'écoute, je le sens.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de franceinter.fr ou la podcaster. Pour l'heure, Charline, c'est à vous.
Bonjour Elsa Boublil.
Bonjour, comment ça va?
Écoutez, très très bien. On attend Julie Depardieu d'une minute
elle
à l'autre.
Elle n'est pas là.
Si, elle arrive. Ah, oh, bon. Si, elle entre dans le studio. Regardez.
Sinon, je peux monter.
Une entrée magistrale en ce moment. Elle vient nous parler de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Eh bien, très bien. Je vous souhaite une belle émission, Charline.
Merci
à
Elsa.
À tout à l'heure.